à tous. L'économie de notre région a souffert et souffre encore. L'industrie aéronautique en particulier doit faire face à des mutations industrielles importantes associées notamment à la transition environnementale et à la transition numérique. Et cette crise sanitaire liée au Covid-19 que nous traversons a porté un véritable coup d'arrêt massif et brutal au trafic aérien et en répercussion à l'ensemble de la filière aéronautique. Les entreprises en ressortent fragilisées alors que dans le même temps, elles doivent investir pour s'adapter aux mutations qui les attendent. Dans ce paysage où la plupart des entreprises de l'aéronautique, notamment, ont perdu une grande partie de leur chiffre d'affaires, eh bien, les projets, les initiatives ne manquent pas. C'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans cette émission avec mes invités qui ont la pêche et qui font bouger les lignes. On avance, saison 2, épisode 1, c'est parti. Bonjour Laetitia, Shane, est-ce qu'on dit Chains à l'anglaise
ou Non, on va
Shane,
le dire à la française.
On va le dire à la française. Shane, vous êtes cofondatrice et directrice générale de Cooper. On dit Cooper ou Cooper?
Alors là, on va le dire à l'anglaise. On dit Cooper.
Cooper, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, Cooper, ça peut faire penser à la coopération, à l'air, on va dire, l'aéronautique. Peut-être donner, sans mauvais jeu de mots, une bouffée d'air à l'aéronautique avec les difficultés qu'on connaît en ce moment.
Bien
mais
inspiré.
C'est donner cette notion de coopération entre les entreprises.
De nouveaux souffles peut-être. Alors Vous venez de déployer une plateforme de mise en relation et de partage de ressources dans l'aéronautique. Ça s'appelle donc Cooper. Expliquez-nous en quoi ça consiste en quelques mots.
Oui. Donc je vais vous expliquer d'où l'idée est partie.
La genèse du projet.
Donc nous à la base on est un bureau d'études dans l'aéronautique. Donc moi je suis directrice générale de ce bureau d'études Altitude Aerospace. Et à la fin du confinement quand on a vu qu'on rentrait vraiment dans une crise durable dans l'aéronautique, je me suis posé la question, je pense un peu comme toutes les entreprises dans l'aéronautique, comment on va occuper nos équipes dans les années à venir, comment on va pouvoir trouver nos futurs clients dans ce contexte tendu et comment on va essayer de faire face. Donc je me suis aperçue que je n'étais pas la seule à me poser ce style de questions. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans un système de plan de sauvegarde de l'emploi qui connaissent pas mal de difficultés. Ouais. Donc c'est là que j'ai eu l'idée d'une plateforme collaborative où des entreprises qui seraient en sous-charge pourrait faire appel à des entreprises qui ont, de l'activité, que ce soit dans l'aéronautique, parce que tous les secteurs ne sont pas touchés malgré tout, ou dans d'autres secteurs d'activité. On veut vraiment axer sur la diversification, mais que les besoins rencontrent les disponibilités et qui se créent derrière un échange via des dispositifs de prêt de personnel, par exemple.
Alors, comment ça fonctionne concrètement, cette plateforme? Elle est déjà active?
Voilà, elle est active depuis le 1er septembre. On voulait vraiment se donner le défi d'aller vite parce que c'est maintenant que les entreprises connaissent des difficultés. Donc, on l'a ouvert le 1er septembre. Aujourd'hui, donc ça fait un mois tout pile, il y a déjà une centaine d'entreprises qui sont utilisatrices au quotidien. On en a qui nous rejoignent vraiment tous les jours.
Ça veut dire qu'il y a des besoins?
Ah, il y a vraiment. Alors voilà, il y a beaucoup d'entreprises forcément qui connaissent quelques difficultés, donc qui vont déposer en fait les profils de leurs salariés. Donc c'est le manager ou la responsable des ressources humaines qui est en charge en fait d'identifier les personnes dans leur entreprise qui sont en sous-activité ou qui sont en activité partielle par exemple, de déposer leur profil sur la plateforme. C'est très anonymisé, ça respecte vraiment toute la confidentialité. On le sait là dans ce secteur d'activité, ça reste aussi concurrentiel. Une entreprise A n'a pas envie qu'une autre entreprise concurrente sache qu'on a tant de personnes disponibles dans son entreprise. Donc voilà, c'est les managers qui déposent le profil de la personne disponible sur la plateforme et par un système d'algorithme de matching, d'intelligence artificielle, les compétences sont extraites du profil et vont venir matcher, vont venir correspondre avec des besoins que d'autres entreprises auront déposés.
Comme un site de rencontre.
En fait, c'est ça. J'utilise souvent ce parallèle-là. Ça fait un peu sourire, mais on est un peu le mythique professionnel de l'aéronautique.
C'est une image qui est très parlante.
Voilà, c'est comme ça. En fonction des compétences qui ont été identifiées par le système, ça va venir mettre en relation les personnes disponibles avec les sociétés.
Et à l'inverse, je suis une entreprise dans l'aéronautique. Je recherche des compétences spécifiques. Je peux aussi m'appuyer sur Cooper?
Voilà, totalement. même on reçoit un écho très favorable d'entreprises extérieures au domaine de l'aéronautique, des entreprises du bâtiment, du secteur de l'énergie, du médical, qui reconnaissent les compétences pointues qu'on a dans l'aéronautique et ils sont intéressés justement, eux, ils sont, bon, c'est des secteurs d'avenir, ils sont en demande et ils sont intéressés à faire travailler du personnel de l'aéronautique. Donc on voit de l'intérêt même des entreprises hors secteur qui ont des besoins.
Est-ce que c'est une solution éphémère pendant cette crise sanitaire qu'on traverse ou c'est un objectif à long terme ?
Non, c'est vraiment un objectif à long terme. Aujourd'hui, la base de notre plateforme, elle a déjà été déployée dans d'autres secteurs d'activité, comme le secteur du numérique, et dans un autre contexte, un contexte de tension de main-d'œuvre, où là, pour le coup, il y avait très peu de personnes disponibles sur le marché. Donc, c'est une solution qui vraiment trouve son sens pendant la crise, mais pas que lors de la reprise d'activité. Ben, on va avoir besoin de monde dans quelques années, et là, à ce moment-là, voilà, il y aura déjà des personnes disponibles sur la plateforme.
Quels sont les avantages de Cooper ? Qu'est-ce que vous proposez de mieux que voilà, une mise en relation en réseau classique, on va dire ?
Oui, alors c'est vrai que des fois on peut se dire, ben moi je connais mon réseau et je peux faire sans la plateforme. La plateforme, ce qu'elle va apporter, c'est peut-être de se mettre en relation avec des entreprises avec lesquelles on n'aurait jamais parlé en temps normal. Quand on est une PME, on n'a pas une force commerciale. Quand on a une PME dans le Gers ou dans l'Ariège et qu'on est une cinquantaine d'employés, on n'a pas la force commerciale d'aller démarcher toute la journée des entreprises. Donc c'est un potentiel de mise en relation beaucoup plus rapide et partout en France, on l'a ouvert sur toute la France. Donc aujourd'hui, il y a des sociétés partout en France qui ont déposé des besoins ou des disponibilités et ça permet de rencontrer plus facilement des personnes, surtout dans cette époque un peu compliquée pour rencontrer les gens.
Bien sûr.
Donc voilà, c'est un accélérateur, on va dire, de rencontres.
Alors, il y a un point qui est important, c'est le professionnalisme. Comment est-ce que vous garantissez que ces règles de professionnalisme soient appliquées entre les entreprises, justement ?
Oui, non, ça c'est sûr que c'est un point important. Déjà, la confidentialité est vraiment de mise, comme je vous l'avais dit, tout au long du process. On choisit avec qui on veut travailler. S'il y a des entreprises qui sont concurrentes et où on n'a pas forcément envie de pouvoir répondre à leurs besoins.
Vous pouvez refuser des demandes, c'est ça ?
En fait, on peut les blacklister. L'entreprise en question ne le saura jamais, mais on sait que parfois, il y a des entreprises qui ne pourront jamais travailler ensemble, crise ou pas crise. C'est la vie aussi, c'est le marché. Donc, on peut faire en sorte qu'elles ne se rencontrent pas sur la plateforme. Donc ça, c'est très bien mis en place.
Donc, ça veut dire, je saisis au fol ce que vous me dites, vous avez une connaissance assez pointue du secteur de l'aéronautique. Vous les connaissez, toutes ces entreprises ?
Alors, on les connaît de par notre réseau, puisque je suis en charge d'une entreprise dans le secteur de l'aéronautique. Par contre, c'est l'entreprise elle-même qui va choisir quels sont ses partenaires, quelles sont les entreprises avec qui elles ne veulent pas travailler. C'est à chaque entreprise de gérer ses paramètres, ses paramètres, ses préférences, en fait. Donc, c'est vraiment elles qui... On les laisse voir.
On imagine que c'est un service payant. Comment ça fonctionne ? C'est un abonnement, c'est ça ? À l'année ?
Oui, à terme, effectivement, le dispositif va devenir payant. Aujourd'hui, on le propose gratuitement pour les premiers mois d'activité parce que voilà, on ne veut pas rajouter une charge supplémentaire à ces entreprises qui sont quand même en difficulté. On a déposé une demande de financement complémentaire aussi pour ce projet auprès notamment de la région. Donc, ça nous permet de pouvoir lancer la machine et de pouvoir l'ouvrir à tous les membres de façon gratuite, sans engagement. Donc ça, c'est valable au moins jusqu'au 31 décembre de cette année. Et après, effectivement, le modèle est voué à être pérenne et donc à devenir payant. Et c'est un système d'abonnement mensuel qu'on compte mettre en place pour qu'il y ait autant de mises en relation que possible, enfin de façon illimitée, en fait, de pouvoir déposer autant de profils disponibles qu'on a dans sa société ou autant de besoins qu'on peut avoir de se faire autant de mises en relation possible. Donc c'est pour ça qu'on a choisi l'abonnement mensuel.
Et à terme, j'imagine, vous prendrez une commission sur ces...
Non, pas du tout. D'accord. Non, on ne veut pas rajouter une commission supplémentaire quand il y a une mission qui démarre grâce à nous. C'est vraiment... uniquement un abonnement. Et après, les sociétés, elles se mettent en relation entre elles. Il y a un système de messagerie, toujours pareil, un peu la méthode d'un site de rencontre. Quand il y a un match, les deux entreprises peuvent se parler, peuvent communiquer entre elles. Et là, seulement à ce moment-là, les cartes de visite de l'une et de l'autre sont dévoilées, des managers des deux sociétés. Et à ce moment-là, ils peuvent prendre contact par téléphone ou par mail, comme on le fait dans la vraie vie, et établir un contrat entre eux. En fait, ça passe pas du tout par la plateforme.
Alors, je suis travailleur indépendant dans l'aéronautique. Oui. Est-ce que moi aussi, je peux avoir accès et proposer mes compétences sur la plateforme Cooper?
Oui, on l'a ouvert aussi aux indépendants, parce qu'on a remarqué que les indépendants, ils avaient un vrai savoir-faire technique. Par contre, quand ils étaient touchés par une crise comme celle-là, ils n'avaient pas forcément aussi les compétences commerciales ou le réseau pour pouvoir facilement trouver des clients. Donc là, c'est pareil, c'est une possibilité pour eux de rencontrer des gens qu'ils auraient du mal à rencontrer dans la vraie vie, parce qu'en général, c'est des techniques, c'est des ingénieurs.
Dernière question, Laetitia. Expliquez-nous comment concrètement on utilise la plateforme aujourd'hui. Je m'inscris, comment je fais ? www.cooper ?
Voilà, c'est www.cooper. Alors, Cooper, ça s'écrit COOPAIR .fr et l'inscription, elle est très très simple, ça se fait en deux clics. On ne demande pas du tout de code de carte bancaire, etc., étant donné que pour l'instant l'ouverture est gratuite, l'accès est gratuit. Et après, vous allez voir, on organise finalement toutes les semaines aussi des webinars pour faire une présentation de la plateforme, organiser une petite session de démonstration. Après, c'est fait de façon très très ludique, donc normalement il n'y a peut-être même pas besoin de ces sessions de présentation.
Facile d'utilisation.
Voilà, l'entreprise qui a des besoins, elle va rentrer son besoin un peu comme sur un site d'emploi finalement. Elle va faire un copier-coller de son offre, elle valide et c'est accessible sur la plateforme. Et une société qui a des salariés qui sont disponibles, qui pourraient être disponibles pour intervenir dans d'autres sociétés, toujours en étant rattachés à leur société. Là, c'est le responsable, le responsable RH, le dirigeant de PME, si c'est une PME, qui va s'inscrire et qui va inscrire les compétences de ses salariés.
Aujourd'hui, vous avez à venir comme ça combien d'entreprises ?
Donc aujourd'hui, une centaine.
D'accord.
Une centaine d'entreprises. Là, d'ici quelques mois, on voit à l'allure où ça va, on prévoit à peu près un millier d'entreprises qui pourraient nous rejoindre.
L'idée, c'est de décliner Cooper dans d'autres secteurs d'activité ?
Alors en fait, c'est vraiment, nous, on va dire fondamentalement, moi mon secteur, c'est l'aéronautique et on sait qu'il y a un gros besoin en ce moment dans l'aéronautique. Donc au niveau des disponibilités, on veut garder ça le plus possible. On veut essayer de trouver des solutions à la crise dans l'aéronautique. Par contre, bien sûr, s'il y a des entreprises hors aéronautique qui ont des besoins, elles sont plus que bienvenues. Si elles ont envie de bénéficier des compétences de l'aéronautique, elles sont bienvenues à rejoindre la plateforme et à déposer leurs besoins.
Une belle initiative, Cooper, www.cooper.fr. Merci Laetitia.
Merci.
Et alors,
vous
avez choisi un super titre qui donne la patate, comme on dit. On va marquer une première pause musicale. Je me tourne vers Yanis, Unstoppable de Sia.
Takes to fool this down. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. Feeling sure is the only way to make friendships grow, but I'm too afraid.
bien, nous aussi, nous sommes unstoppable, inarrêtable dans les studios d'Esprit Occitanie. On avance, saison 2, épisode 1. Alors, la transformation digitale, tout le monde en parle. C'est devenu une expression très à la mode et pour cause. Hein, la période troublée que nous traversons depuis quelques mois maintenant va entraîner des reconsolidations d'entreprises et en tout cas de profondes mutations. Autre initiative sur laquelle on s'arrête aujourd'hui parce qu'on avance, on en parle avec Emmanuel Cordier, responsable partenariat et investissement à la Maison de la Formation Jacqueline Auriol. Bonjour Emmanuel, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes par ailleurs enseignant à l'université Paul Sabatier en génie mécanique et chef de département adjoint à l'IUT. Alors pour passer cette quatrième révolution industrielle, il a fallu mutualiser les forces et les moyens. D'où le projet de création de cette école, la Maison de la Formation Jacqueline Auriol. Un petit mot pour ceux qui ne connaissent pas ce projet. Qu'est-ce que c'est que cette Maison de la Formation ?
Alors la Maison de la Formation Jacqueline Auriol, c'est un projet de l'Université fédérale de Toulouse qui va rassembler très prochainement, donc en 2021, l'ensemble des formations génie mécanique du Grand Toulouse. Donc je parle là des masters spécialisés de ISAE Supaéro, du département génie mécanique de l'INSA, du département génie mécanique de l'IUT et de l'AFSI, c'est-à-dire les licences, les masters et les doctorants de l'université en génie mécanique, c'est-à-dire à peu près 1500 étudiants.
C'est ça, ça va faire du monde. Et quoi, 150 ingénieurs, c'est ça à peu près ?
Alors, en termes d'enseignants, enseignants, c'est à peu près 150 enseignants, ingénieurs et techniciens pour les encadrer, effectivement.
Un petit mot sur l'architecture de cette maison, parce que sur place, il y a déjà des bâtiments. On va tout détruire pour tout reconstruire, c'est ça ?
Alors, effectivement, ce n'est pas une nouvelle école. On rassemble, on va mutualiser les moyens, on va créer ce qu'on appelle dans les entreprises un groupe consolidé pour unir aussi notre trésorerie, et on va raser les bâtiments existants. On profite du plan campus pour construire un nouveau bâtiment qui réponde aux normes environnementales, énergétiques et autres, et qui soit aussi construit pour intégrer les formations de demain.
Un bâtiment qui doit être inauguré à l'été prochain, juillet 2021,
alors voilà.
C'est ça ?
Oui, oui. Alors c'est un bâtiment qui était initialement prévu pour janvier 2021. Ça a un petit peu glissé avec la crise Covid. On glisse encore sur une livraison en juillet 2021. Donc effectivement, une inauguration au courant de l'été.
Et une rentrée pour les étudiants en janvier 2022 ?
Alors, une rentrée pour les étudiants, très certainement, en janvier 2022, le temps de recevoir et d'installer l'ensemble des équipements, et notamment, à l'intérieur, on va en parler, une usine, l'usine école, la fameuse
voilà.
Usine école.
Et il est effectivement prévu, Emmanuel, de créer une usine école du futur au sein de cette maison de la formation pour illustrer ce qu'est véritablement la transformation digitale au sein des entreprises et les enseignements dispensés sur place. C'est quoi ? C'est un prototype, usine du futur, c'est ça ?
Alors, on peut parler de prototype, effectivement. Donc, l'idée, c'est d'avoir au sein du campus une vraie usine avec des briques mises bout à bout. Alors qu'en général, dans les plateformes d'enseignement, on retrouve une brique d'un côté, une brique de l'autre. Et c'est aux jeunes de construire et d'imaginer l'usine. Là, on aura une vraie usine au cœur de l'université. Alors, une usine qui va nous permettre de former, mais pas que.
Une usine qui va aussi travailler en lien direct avec les entreprises du terroir en local, de quelle façon ? Et quelles entreprises pourraient être intéressées ?
Alors effectivement, derrière cette usine, il y a un consortium avec de nombreux acteurs, dont le pôle Aerospace Valais, qui est juste à côté de la MFJA. L'objectif, effectivement, c'est d'accompagner les patrons d'entreprises dans la transformation de leurs entreprises. Donc l'idée de cette usine, c'est d'arriver à faire la démonstration, cette usine deviendra un démonstrateur alors, 4.0, donc d'arriver à faire la démonstration qu'en investissant dans les nouvelles technologies, on est capable d'être compétitif. Voilà, donc l'objectif aujourd'hui, on va présenter la version 1 de cette usine dans quelques semaines lors du CIAN, le salon de l'industrie qui va se tenir à Toulouse, donc 20, 21 et 22 octobre. Donc une usine qui fait à peu près 500 mètres carrés, qui a été construite sur un premier POC, première preuve de concept, réalisée avec l'entreprise Aura Aero, donc une nouvelle entreprise sur Toulouse. Et l'idée est de montrer comment on fabrique l'avion de Aura Aero avec tous ces c'est toutes ces nouvelles technologies.
Oui, parce qu'au sein de Aura, enfin, Aura a été créée par des anciens d'un grand groupe bien connu ici à Toulouse.
Effectivement, donc c'est des jeunes d'une quarantaine d'années qui ont quitté il y a quelques mois ce grand groupe pour voler de leurs propres ailes et créer leur propre avion. Donc aujourd'hui, ils en sont à la définition et à la réalisation du prototype. Et nous, en parallèle, on les accompagne sur la création de l'usine. Et une usine tournée vers le futur et pas une usine qui reproduit ce qu'on a connu avant.
Donc ça, c'est le premier partenariat, on va dire, avec l'idée de généraliser, d'aller au-delà de la société et l'idée aussi de relocaliser la production ici.
Alors effectivement, là, ce premier partenariat va nous permettre de faire la démonstration avec de nombreux partenaires. Ils sont aujourd'hui une trentaine à avoir répondu présent à notre sollicitation. Je peux en citer quelques-uns avec qui on a signé notamment des accords de mécénat qui ont détaché des ingénieurs ou qui ont mis du matériel. C'est le cas d'Altran, de Huron, de Weart, de AK, de 3A, de CML ou de Zeiss, par exemple. Peut-être que ces noms vous parlent. Et aujourd'hui, ils ont détaché donc, des ingénieurs, des techniciens. Ils ont également mis du matériel à disposition pour qu'on construise ce premier POC. Alors, ce premier POC, cette première preuve de concept, elle est partie d'une feuille blanche. Donc, effectivement, ça, pour le généraliser, c'est un petit peu plus compliqué. Les autres entreprises existent déjà.
Expliquez-nous, Emmanuel, on ouvre une petite parenthèse pour les non-initiés. Preuve de concept, POC, c'est Proof of Concept. Qu'est-ce
Exactement.
Que ça veut dire pour les gens qui ne comprennent pas ce terme ?
Ça veut dire réaliser
la, preuve que ça marche.
Réaliser la démonstration que voilà. Ça fonctionne, effectivement. Donc, en mettant ces nouvelles technologies. Alors, quand je parle de nouvelles technologies, c'est réalité virtuelle, réalité augmentée dans l'entreprise, robotique, objets connectés, cloud, blockchain. Bon, je vais pas rentrer dans le détail de tous les éléments. Voilà. Donc, en mettant tous ces éléments les uns à la suite des autres, on arrive à créer cette usine dite du futur qui nous permet derrière d'être plus compétitifs. Alors, en partant d'une feuille blanche, bien évidemment, on n'est pas capable de comparer à une usine conventionnelle. Donc ça, c'est notre nouvel objectif. Donc, c'est l'objectif de la V2. Donc, la V1 va être présentée à la fin du mois. La V2, c'est pour l'année prochaine. Et l'objectif de la V2, c'est effectivement de sélectionner avec le concours du Pôle Aerospace Valley.
On va en parler dans un instant, parce qu'on a le digne représentant dans ce studio. Hein.
Voilà, il va y avoir la publication d'un AMI, d'un appel à manifestation d'intérêt, pour trouver 2 ou 3 PME du territoire. Et avec ces PME qui aujourd'hui fabriquent de manière conventionnelle un produit, fabriquer le même produit dans l'usine du futur que l'on va développer ensemble et mener une comparaison, alors avec des éléments financiers bien évidemment, pour arriver à faire la démonstration que l'on est plus compétitif en investissant dans ces nouvelles technologies, ce qui pourra derrière nous permettre effectivement de maintenir de l'activité, voire de relocaliser et ramener de l'activité qu'on avait délocalisée en Pologne, au Maghreb ou en Amérique du Sud par exemple.
Votre rôle, Emmanuel, c'est également de fournir une main d'œuvre hyper qualifiée sur le 4.0, c'est ça ?
Alors effectivement, dans ce grand projet qui coordonne et fédère un grand nombre de collaborateurs et de partenaires, notre rôle à nous côté université, c'est effectivement d'être en capacité de fournir la main d'œuvre avec les bonnes compétences, c'est-à-dire nous mettre à niveau déjà. Parce qu'il faut le reconnaître,
oui,
on n'est pas forcément...
Oui, parce qu'il y a les jeunes, les compétences, puis il y a les enseignants
aussi. Voilà, donc il y a le premier step, c'est de mettre les enseignants à niveau, mettre les plateformes techno à niveau et être en capacité très rapidement de sortir sur le marché des jeunes avec toutes ces nouvelles compétences, mais pas que. Parce qu'il y a un autre enjeu, ce n'est pas de mettre uniquement des jeunes sur le marché, mais c'est également de recycler, mettre à niveau les salariés des entreprises.
De les accompagner vers cette mutation.
Effectivement, ouais. Voilà. Donc, on était très inquiets il y a quelques mois parce que les salariés n'étaient pas disponibles. Aujourd'hui, dans notre malheur, on va dire, beaucoup de salariés vont être disponibles dans les prochains mois. Donc, il est aussi de notre devoir d'être en capacité de les accueillir très rapidement.
Alors, je vous arrête un instant là-dessus. C'est important, cette notion, Emmanuel. Comment vous allez les accompagner ? Ça veut dire qu'on va leur proposer des formations au sein de cette école Usine du Futur ?
Voilà, exactement. Donc, l'enjeu, c'est de leur proposer des formations, mais pas les formations d'hier. C'est de profiter de cette opportunité, finalement, que l'on a pour leur proposer les formations de demain. et les mettre à niveau pour que immédiatement ces nouvelles compétences reviennent dans les entreprises du territoire.
Oui, parce que ce que vous me disiez en préambule, hein, quand on a préparé cette émission, ce projet, on a compris, il est territorial et il a un objectif de compétition, véritablement.
Alors, de compétition, oui et non. Alors, je parlerai de compétition au niveau national ou international plutôt. Par contre, il a un objectif de co-pétition. On jouera un petit peu sur les mots. Le cluster Robotic Place qui travaille main dans la main avec nous sur le projet pour toute la partie robotisation utilise très souvent ce terme de co-pétition et je le reprends. Co-pétition, c'est-à-dire que notre objectif, ce n'est pas d'avoir des partenaires exclusifs, notamment un partenaire en fabrication additive, un partenaire sur un logiciel de CAO. Non, c'est de permettre à tous les acteurs aujourd'hui de venir avec nous dans cette compétition. Et notre objectif, c'est de rassembler le plus de monde possible. Tout à l'heure, j'en ai cité quelques-uns, mais en fait, aujourd'hui, pour le CIAN, on sera en réalité une trentaine de partenaires. Et l'objectif pour la version 2 l'année prochaine, c'est certainement de monter à une centaine de partenaires dans ce projet.
Ça veut dire que vous êtes en recherche de partenaires à l'heure actuelle pour la V2 ?
Effectivement, on est en recherche permanente de partenaires. L'idée, c'est que chacun puisse jouer, chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Donc, on est dans une recherche de partenaires permanente et très certainement pour les 5 ans à venir, parce que l'objectif de ce projet-là, c'est d'être actif et réactif très rapidement et de pouvoir agir sur le territoire dans les 5 prochaines années.
En tout cas, l'appel est lancé. On va parler dans un instant avec, en tous les cas, le co-créateur de ce projet, Serge Angevin, de la genèse du projet. Mais on va faire une seconde pause musicale. Emmanuel, vous avez choisi un titre qui file la pêche aussi. High Hopes, Panic at the Disco. Allez, on avance ensemble dans les studios d'Esprit Occitanie avec un casting de haut vol, je dois dire, ce matin. Je suis assez fière de vous accueillir tous. Surtout vous, Serge. Comment ça va ? Serge Angevin, directeur délégué à l'accompagnement des entreprises et industries du pôle Aerospace Valley. Merci d'être là pour compléter un petit peu les discussions qu'on vient d'avoir avec Emmanuel et Laetitia. Peut-être en préambule, un mot sur le pôle Aerospace Valley qui a été lancé en 2005. En 2005, c'est un pôle de compétitivité. Avec quelle mission ?
Bonjour, mais merci pour le haut vol d'abord. Donc, le pôle de compétitivité Aerospace Valley, donc, c'est un pôle qui exerce dans le domaine de l'aéronautique, du spatial et des drones ou des nouvelles mobilités. Donc, c'est plus de 850 adhérents donc, répartis sur 7 collèges. On appelle un collège, en fait, c'est les grands groupes, c'est les entreprises, les PME, c'est le collège d'enseignement, c'est les financeurs. Donc, c'est un certain nombre on a réparti l'ensemble de nos adhérents sur des catégories. Et la partie principale du pôle Aerospace Valley, ce sont les PME, le collège des PME, où on a environ 600 PME qui sont adhérentes du pôle.
Sur les deux régions, hein, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine.
Voilà, tout à fait, sur les deux régions.
Alors, c'est ce contexte véritablement numérique hein, qui a fait que ça incite effectivement à la transformation digitale. D'où ce projet, d'où cette plateforme d'accélération industrie du futur dont on vient de parler avec Emmanuel, dont le pôle Aerospace Valley est un des partenaires. Vous êtes aussi, avec Emmanuel, à l'origine de ce projet, c'est ça ?
Oui, tout à fait. En fait, c'est la jonction de deux constats. Le premier constat, c'est, on en parle beaucoup à l'heure actuelle, c'est les délocalisations. Aujourd'hui, on parle des relocalisations. C'est en fait un constat qui est la perte de compétitivité des entreprises de nos territoires qui a entraîné pendant une dizaine d'années de fortes délocalisations pour que les grands donneurs d'ordre restent compétitifs sur le marché international. Donc le premier constat, c'est que comment est-ce qu'on peut faire pour redonner de la compétitivité à nos entreprises. Donc on a fait beaucoup de choses, on a modernisé notre outil de production, on a fait gérer beaucoup de choses dans le domaine de la réorganisation des entreprises, mais ce n'est pas suffisant par rapport à gérer quand on aura la compétition mondiale. Donc une des idées fortes, c'était de dire, dans les outils qui nous restent à disposition pour essayer de crever ce plancher et pour essayer de baisser encore les coûts de production en France, la transformation digitale est aujourd'hui la seule réponse qui nous reste. Donc, on dirait que la transformation digitale des entreprises, et on va venir après expliquer ce que c'est vraiment l'outil dont on a besoin aujourd'hui pour rejoindre les critères de compétitivité dont ont besoin les grands donneurs d'ordre.
On s'arrête justement sur ce terme de transformation digitale. Vous me lancez une perche, donc je la saisis. C'est quoi la transformation digitale des entreprises ?
Alors, Emmanuel a déjà un petit peu parlé. En fait, ça veut tout dire et rien dire. Je crois qu'il faut mettre du bon sens là-dedans.
Ça peut faire peur. Surtout.
Ça peut faire peur et on va voir aussi un petit peu les solutions qu'on peut mettre en face de ça. Mais à l'origine de tout, je pense que tout chef d'entreprise essaie d'améliorer la compétitivité de son entreprise pour pouvoir prendre des marchés et pour pouvoir avoir une rentabilité. Donc c'est baisser ses coûts de production ou c'est permettre d'aller vers de nouveaux marchés donc avec une compétitivité meilleure. Donc la première des choses, c'est dans la transformation digitale, c'est essayer de chercher cette fameuse compétitivité. Donc il y a des outils qui existe dans la transformation digitale, qui permet d'obtenir cette recherche de compétitivité, c'est la robotisation, l'automatisation des processus, c'est un certain nombre de briques qui permettent de faire bien du premier coup et d'éliminer donc, les gaspillages, les rebuts, la non-qualité. Donc c'est tout un ensemble de mesures qui sont plutôt, je dirais, de bon sens, avec derrière des pavés technologiques, et qu'il faut être capable de mettre en œuvre, toujours avec une certaine logique, une architecture, qui fait que ça permet d'obtenir un résultat. Donc je crois qu'il faut quand même garder en tête la notion de bon sens quand on parle de transformation digitale. C'est pas se transformer pour se transformer, c'est se transformer avec un objectif, qui est un objectif d'améliorer sa compétitivité.
Je voudrais votre vision à tous les deux, parce qu'on dit toujours que la France est très en retard. Est-ce qu'on est très en retard sur ce marché de la transformation digitale d'un point de vue mondial ? Ou est-ce qu'on prend le bon tournant et au bon rythme ?
Alors,
Emmanuel, je ne sais pas quel est votre point de vue. Serge.
Si je réponds à la question, je vais en profiter pour parler de ce qu'on fait, c'est-à-dire le projet de plateforme donc, qu'on
Bien
a avec Emmanuel. La réponse à la question, c'est oui, on est en retard.
Clairement. On est en retard.
On est en retard.
On pense à la Chine, on pense aux États-Unis, on pense.
On pense plutôt à l'Allemagne, même à l'Italie. Qui sont des pays qui se sont plus fortement automatisés que nous, en particulier l'Allemagne, qui a un taux de robotisation très important, le Japon, qui a un taux de robotisation encore plus important. La Chine, paradoxalement, qui a aussi un taux de robotisation très important parce que ils ont des problèmes de main-d'œuvre, ça peut paraître paradoxal, mais ils ont aussi des problèmes de main-d'œuvre, à tel point qu'ils fabriquent des robots, qu'ils achètent des sociétés qui fabriquent des robots. Cette prise de conscience, elle s'est faite au niveau de l'État, qui a, donc en 2019, lancé un appel à projet pour créer ce qu'on appelle des plateformes d'accélération industrie du futur. Et c'était effectivement basé sur ce constat que la France avait du retard dans sa transformation digitale ou dans sa volonté de se transformer. Donc l'idée de ces plateformes, c'était de créer des plateformes régionales qui permettent donc aux dirigeants d'entreprise dans un lieu unique, on va dire, de venir comprendre ce que c'est l'industrie, ce qu'on appelle l'industrie 4.0.
4.0,
ouais. De lui démontrer, comme disait Emmanuel tout à l'heure, que ça marche, que c'est quelque chose qui lui permet d'obtenir donc, ce qu'il cherche, la compétitivité, de la productivité, de la qualité, de nouveaux marchés, la continuité avec son client, être capable de comprendre les ordres que donne son client, et ensuite de pouvoir l'accompagner dans sa transformation, c'est-à-dire donc au travers d'un certain nombre de mesures, identifier là où il en est, voir là où il doit aller et définir un parcours, et ce parcours le doter d'outils qui sont des sociétés ou des prestataires ou des fournisseurs de solutions qui lui permettent donc d'effectuer ce parcours-là.
Cette plateforme qui voit le jour à Toulouse, est-ce qu'il y en a d'autres qui voient le jour dans d'autres régions françaises? Et du coup, est-ce que ça va créer une espèce d'émulation interrégionale? C'est ça aussi l'objectif?
Alors effectivement, je prends la parole, Serge.
Allez-y.
Ce concept d'usine-école voit le jour à d'autres endroits aussi. Donc Paris avec Bondoufle, qui a un projet qui est Campus Fab, qui a vu le jour un peu en avance par rapport à nous, mais qui est beaucoup plus petit, on va dire, en termes de mètres carrés d'effectifs. On en retrouve dans d'autres écoles comme à Nantes, hein, à Centrale ou à Strasbourg, mais pour l'instant à de très petites échelles. C'est des usines écoles qui vont faire une cinquantaine de mètres carrés contre celle qu'on va présenter là au CIAN et qui fait 500 mètres carrés. Donc on joue gros.
Oui, j'imagine, petite pression. Cette plateforme d'accélération, elle voit le jour aujourd'hui aussi parce qu'on l'a dit, hein, Serge, on va vers un monde de plus en plus digital. On pense notamment au prochain avion novateur d'Airbus. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors, pas un mot de l'avion, mais comment est-ce qu'on le fabrique, cet avion?
Donc, je ne parlerai pas de l'avion parce que donc, là, je ne suis pas suffisamment bien placé pour parler de ce qu'il y a dans les projets d'Airbus. Par contre, dans la manière de le fabriquer, ce qui est clair, c'est qu'Airbus a lancé un processus qui s'appelle le Digital Design Manufacturing System, donc c'est un acronyme, c'est DDMS. Et en fait, c'est un projet qui vise à digitaliser l'ensemble de la chaîne, à la fois de conception et d'industrialisation de l'avion. Alors, je parle pas en nom nerveux, c'est bien évidemment, hein, donc je parle donc de ce que j'en connais. Donc, l'idée est une idée qui s'inscrit complètement dans ce qu'est le monde digital de demain, c'est qu'on conçoit l'avion dans un monde numérique, dans ce qu'on appelle la maquette numérique. Donc, ça veut dire qu'on le conçoit donc avec des outils qui sont des outils de conception assistée par ordinateur. On industrialise l'avion également dans la maquette numérique, c'est-à-dire qu'avec ces mêmes outils, on va concevoir les chaînes de fabrication qui vont produire cet avion. Donc, on va donner un certain nombre de contraintes, qui sont des contraintes de cadence, des contraintes d'efficacité. Et donc, l'avion va être complètement conçu dans un monde virtuel. C'est-à-dire qu'on va itérer entre la conception et l'industrialisation pour modifier la conception et atteindre les objectifs de l'industrialisation et éliminer le plus possible les défauts ou les zones d'ombre dans la maquette numérique. Donc, la maquette numérique, c'est un logiciel dans lequel on va faire intervenir également des notions de réalité virtuelle pour pouvoir se plonger en immersion dans la maquette numérique, donc voir en trois dimensions ce qui se passe soit en conception, soit en industrialisation, donc les chaînes de montage. Et une fois que tout ça s'est terminé, et une fois que c'est validé, on va l'envoyer donc en production dans la vie réelle. C'est-à-dire que ça va être fabriqué réellement sur des machines, sur une supply chain qui peut être locale ou internationale. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on va mettre des capteurs dans toute la partie fabrication qui vont renvoyer des informations à la maquette numérique et on va comparer en continu, en temps réel, ce qui se passe dans la vie réelle avec ce qui avait été prévu dans la maquette. Donc, c'est une boucle de données, de transfert de données continue qui va alimenter la maquette numérique dans laquelle on va comparer la réalité par rapport à ce qu'on avait prévu dans le virtuel. S'il y a un écart, soit c'est le réel qui dérive, donc ça veut dire qu'il faut le corriger immédiatement, soit c'est la maquette, les algorithmes qui étaient mauvais, il faut corriger la maquette. Donc, on rentre dans ce monde-là. Et ce monde-là, il signifie quoi? Il signifie que tous ceux qui vont être dans le monde de la conception vont devoir travailler dans une maquette numérique, donc avoir la formation, avoir les outils, avoir les méthodes de travail qui correspondent à l'utilisation de cette maquette numérique. Et tous les gens qui produisent donc, suite à la suite de cette maquette numérique vont devoir avoir des outils de production qui sont capables de renvoyer les informations nécessaires et appelées par la maquette numérique.
Du coup, je me tourne vers Emmanuel. Ça veut dire qu'on va former les futures personnes qui travaillent dans les bureaux d'études à travailler sur de nouveaux outils plus numériques, vers du plus digital, dans cette école usine du futur ?
Alors effectivement, oui, c'est des réflexions qui sont en cours aujourd'hui vers des solutions proposées soit par Dassault, soit par Siemens avec Anix ou par de plus petits, hein, notamment des locaux. Et effectivement, on essaie d'intégrer au maximum ces outils et c'est ce qu'on a fait dès maintenant. L'usine qui va être présentée au CIAN est aujourd'hui en cours de design, donc elle n'existe que virtuellement. Donc quand on la montre, ça reste des images de synthèse et elle va être construite pour la première fois directement pour le salon et elle va être démarrée là-bas pour produire.
Ça veut dire qu'on va vers un avion plus digital et surtout plus vert. Cette notion, elle est quand même essentielle aujourd'hui. On va essayer de sortir de l'aircraft bashing.
Alors, l'aircraft bashing, et puis je dirais que la manière de fabriquer les avions, je crois que la manière de fabriquer, de toute manière, va toucher tous les secteurs industriels. Oui, clairement, on va vers un monde, donc, et je crois que c'est une responsabilité qui est une responsabilité sociétale. Puis c'est le bon sens, encore une fois, je pense que le mot bon sens, on l'oublie souvent, mais il faut quand même le rappeler.
Ça serait bien de faire preuve de davantage de bon sens en ce moment.
Très, très souvent,
d'accord.
Parce que économiser l'énergie, économiser les matières premières, donc faire en sorte que ce qu'on fabrique, on le fabrique bon du premier coup pour ne pas jeter ce qu'on fabrique. Le fabriquer en minimisant l'énergie nécessaire pour le fabriquer, en minimisant la consommation de matières premières. Je dirais qu'économiquement parlant, ça a du sens. Et c'est ce qu'on appelle le produit revers, c'est-à-dire qu'on produit des choses en minimisant au maximum ce qu'on prend à la planète pour éviter de surconsommer, de gaspiller toutes ces ressources. Donc je crois que produit revers, ça tombe sous le sens. C'est à la fois un concept économique, puis c'est un concept sociétal. Et puis les gens qui travaillent dans une société qui produit vert se sentent quand même beaucoup plus confortables parce qu'ils sont conscients que la société dans laquelle ils travaillent a pris cette dimension, a pris cette responsabilité, et je pense que c'est toujours un argument favorable pour permettre aux gens d'être plus épanouis dans leur travail.
On va marquer une troisième et dernière pause musicale grâce à vous, Serge, et vous nous proposez le titre Human de Rag & Bone Men.
Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer? Are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me.
after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Serge Angevin, cette obligation de transformation digitale dont on parle depuis tout à l'heure, ça n'est pas un truc de geek, hein, on a tendance à associer ça. C'est une vraie nécessité qui, industriellement, a du sens.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est une transformation qui va se faire déjà par le haut, c'est-à-dire que donc, les grands donneurs d'ordre sont en train de migrer vers un processus à la fois de conception et d'industrialisation qui est basé sur le digital. Donc ça veut dire que toute la supply chain va devoir s'aligner avec ça, parce que les informations qui vont demander à la supply chain, encore une fois, pour alimenter la maquette numérique, vont devoir être configurées et vont devoir être transmises de manière automatique donc, aux donneurs d'ordre, si on ne veut pas que ça génère encore des charges improductives, que ce soit des gens qui remplissent des tableurs Excel, etc. Donc il faut que tout ça se soit automatisé. Et pour que ça marche, il faut qu'il y ait une continuité numérique. Donc il faut que tout ce monde-là soit aligné, et les gens qui seront, à mon avis, pas alignés avec ça ou qui seront hors de cette transformation, vont sortir du jeu. Et je crois que par les temps qui courent, on a devant nous 2 à 3 ans, entre guillemets, de vaches maigres. Et il faut profiter de cette période pour transformer notre outil de production régional, pour lui permettre justement d'être au rendez-vous quand l'industrie aéronautique repartira, et repartira bien de toute manière à partir d'un certain moment. Alors aujourd'hui, on ne sait pas si c'est 2 ans, 3 ans, mais ça repartira peut-être pas au même niveau que c'était en 2019, mais ça repartira, et il faudra toujours qu'on produise des éléments d'avion, et ces éléments d'avion, on les produira toujours sur nos territoires également. Et donc, il faudra que nos entreprises soient capables d'avoir les outils nécessaires pour parler le même langage que leurs donneurs d'ordre.
Et justement, cet aspect humain, on en a parlé avec Laetitia en préambule de cette émission. Cette initiative Cooper, vous en pensez quoi, Serge ?
Ben, la situation, elle est quand même, quand on regarde les choses, je dirais froidement, elle est quand même assez exceptionnelle. Et elle a deux caractéristiques. La première, c'est qu'elle est... Elle est conjoncturelle, mais pas complètement conjoncturelle, elle est aussi structurelle, c'est-à-dire un peu structurelle. C'est-à-dire qu'elle est conjoncturelle parce qu'on a perdu brutalement 50% des cadences avions. Donc ça veut dire que l'ensemble de nos entreprises a perdu 50% de son chiffre d'affaires du jour au lendemain, quasiment. Donc on se retrouve avec aujourd'hui des PSE, des plans de licenciement, des mesures d'adaptation d'effectifs qui sont, je dirais, inévitables, qu'on ne peut malheureusement pas donc, contourner. Et c'est un crève-cœur parce que la notion de conjoncturel fait qu'on sait que ça va repartir un moment ou un autre. Ça repartira peut-être dans 2 ans. Donc les gens dont on se sépare aujourd'hui, on va en avoir besoin dans 2 ou 3 ans. L'aéronautique est un domaine dans lequel il y a des très hauts niveaux de compétences, des gens qui sont très très bien formés, que ce soit dans l'école bleue, donc les gens qui sont dans les ateliers, ou que ce soit dans les bureaux d'études ou dans les processus de production. Donc se séparer de ces gens-là pour les perdre, et dans 3 ans ne pas être capable d'être au rendez-vous quand les charges vont remonter parce qu'on n'aura plus les compétences, c'est dramatique. Donc toutes les initiatives, et je salue cette initiative en particulier, qui est d'équilibrer un petit peu la charge entre les entreprises. On l'a vu dans les précédentes crises aéronautiques, on appelait ça à l'époque des détachements but non lucratif. C'était qu'une société A prêtait à la société B des gens parce que la société A avait plus de travail, que la société B en avait encore un petit peu, mais quand la société B, donc la société A reprenait l'activité, reprenait ses effectifs. Donc c'était une sorte de solidarité dans la filière, et ce mot de solidarité, je pense que c'est un mot qui est extrêmement fort et qu'on ne prononce pas suffisamment, à mon sens. Et l'initiative de Cooper, c'est à mon avis une excellente initiative qui permet de sauver des emplois, d'équilibrer des charges avec une sorte de micro-management entre entreprises, et surtout de manifester la solidarité qu'il peut y avoir entre entreprises.
Laetitia, ce mot de solidarité, il vous parle, j'imagine.
Oui. Merci Serge d'abord pour ce petit message. Effectivement, comme Serge l'a dit, aujourd'hui, il s'agit de conserver les compétences aéronautiques pour la reprise. On sait que ça va repartir, on a encore beaucoup de défis à relever dans l'aéronautique. Donc il ne faut pas perdre ces compétences-là. Avec la solution Cooper, le salarié, il reste en CDI dans son entreprise. On essaye de minimiser à notre petit niveau l'impact des plans sociaux dans l'aéronautique. Le salarié va rester en CDI dans son entreprise et va pouvoir intervenir via des missions de prestations de services ou de prêts de personnel dans d'autres entreprises qui sont moins en difficulté, et pouvoir diversifier ses connaissances, mais revenir ensuite quand la crise sera passée dans son entreprise actuelle pour pouvoir relever les défis de demain dans l'aéronautique.
Et finalement, les deux projets sont assez complémentaires, Emmanuel. Un petit mot de conclusion ou un message de fin ?
Oui, tout à fait. Et j'espère qu'on pourra considérer le projet d'usine-école de la MFJA comme une entreprise pour pouvoir s'inscrire sur Cooper et recruter peut-être des talents dans les entreprises. Effectivement, les entreprises peuvent nous détacher du personnel aussi qui aujourd'hui est en sous-activité avec certaines compétences au travers du mécénat via notre fondation. Donc, c'est ce qui leur permet aussi de s'y retrouver financièrement. Donc, qu'elles n'hésitent pas à me contacter. Et bien, j'invite également tous ces industriels, ces entrepreneurs qui croient à l'avenir à venir nous rencontrer le 20, le 21 et le 22 octobre. Au Salon de l'Industrie, donc dans le nouveau parc des expos de Toulouse, au MIT. Et on aura grand plaisir à discuter avec eux, parce que nous, on est convaincus, en tout cas, que derrière cette crise, il y a une opportunité de réformer, de restructurer notre industrie pour redémarrer sur une industrie, comme on disait tout à l'heure, plus verte et encore plus dynamique.
Ce qu'on dit, c'est ce qui ne tue pas rend plus fort. On va essayer de rester optimiste. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus participer à cette première émission de la saison de On Avance. Merci infiniment. Merci Yanis pour tout l'aspect technique. À très bientôt sur Esprit Occitanie. Prenez soin de vous.